Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié chez Larousse et signé par Philippe Wilkinson. Le Petit Larousse illustré des légendes et des mythes est un ouvrage documentaire illustré consacré aux récits fondateurs de nombreuses cultures. Il ne propose pas une histoire continue de la mythologie, ni une anthologie exhaustive de textes sources. Sa vocation est d'offrir des repères clairs pour comprendre les dieux. Héros, créatures, rites, cosmogonies et grands cycles narratifs qui ont structuré les imaginaires collectifs. L'organisation par continents et zones culturelles conduit le lecteur de l'Antiquité méditerranéenne aux traditions d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Les mythes grecs, romains, nordiques, égyptiens, aztèques ou mayas y côtoient notamment des œuvres fondatrices telles que l'Odyssée, le Ramayana et le Popol Vuh. L'iconographie abondante constitue une part essentielle de l'approche, elle rend les récits accessibles tout en les reliant à leur contexte historique, religieux et artistique. Des doubles pages comparatives aident enfin à repérer des motifs communs, sans effacer la singularité de chaque tradition. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une cartographie mondiale qui décentre les mythologies les plus familières. Le choix de classer les récits par continent et par zone culturelle donne au livre une fonction de cartographie intellectuelle. Beaucoup d'ouvrages d'initiation réduisent implicitement la mythologie au monde grec, romain ou nordique. Philippe Wilkinson élargit au contraire le champ. Les traditions de l'Europe sont mises en relation de voisinage avec celles de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et des Amériques. Cette architecture ne signifie pas que toutes les cultures seraient identiques. Elle fournit plutôt un cadre pour situer chaque ensemble de récits dans son horizon propre. Le lecteur peut ainsi passer des héros de la Grèce ancienne aux dieux nordiques, de l'Égypte antique aux récits mésoaméricains, ou encore aux traditions de l'Australie et du monde maya. Cette amplitude est importante parce qu'un mythe n'est pas seulement une histoire étrange ou ancienne, il dépend d'une langue, de pratiques religieuses, d'images, de lieux et de formes de transmission. L'ouvrage rappelle donc, par sa composition même, que les légendes sont des patrimoines culturels pluriels. Il favorise une première connaissance comparée sans imposer un récit unique de l'histoire humaine. Pour un lecteur débutant, ce découpage rend aussi la consultation souple. On peut explorer une ère culturelle précise ou suivre un thème d'un univers à l'autre selon ses intérêts. Deuxièmement, dieux, héros et récits cosmiques, les fonctions structurantes du mythe. Le livre s'intéresse aux figures et aux récits qui donnent une forme intelligible au monde divinité, héros, ancêtres, monstres et récits d'origine. Cette focalisation permet de comprendre que la mythologie ne se limite pas à un catalogue de personnages. Les dieux traduisent souvent des forces naturelles, sociales ou morales. Les héros incarnent des épreuves, des lignées, des fondations politiques ou des modèles ambivalents. Les récits cosmiques organisent les questions de création, de mort, de désordre et de renouvellement. Les sagas des dieux nordiques, les héros grecs. Le serpent à plumes des Aztèques ou les grands récits épiques mentionnés dans l'ouvrage ne remplissent pas une seule et même fonction. Mais ils montrent comment des sociétés ont formulé des réponses imaginaires à des problèmes fondamentaux. Une présentation concise est particulièrement utile ici, car elle distingue les personnages, leurs attributs et leur place dans un cycle narratif sans exiger la lecture préalable des sources anciennes. Le lecteur apprend ainsi à relier une figure célèbre à un système de croyances plus vaste, plutôt qu'à la traiter comme un simple motif décoratif. Cette approche aide également à éviter une lecture exclusivement moderne ou fictionnelle des mythes. Nombre de ces récits ont eu ou conservent une portée religieuse, rituelle, identitaire ou artistique. L'ouvrage fournit donc des clés de contexte avant toute interprétation personnelle. Troisièmement, les grandes œuvres fondatrices comme porte d'entrée vers les traditions orales et écrites, l'inclusion de récits tels que l'Odyssée. Le Ramayana et le Popol Vuh signalent que l'ouvrage accorde une place aux textes et épopées qui ont fixé, transmis ou réélaboré des traditions mythologiques. Ces œuvres ne peuvent pas être réduites à de simples histoires universelles, elles appartiennent à des cadres culturels distincts, à des langues, à des pratiques de récitation et à des histoires de transmission particulières. Leur présence permet néanmoins d'observer une propriété essentielle des mythes, ils vivent par des versions successives. Un récit peut être oral avant d'être mis par écrit, connaître plusieurs variantes, être adapté dans les arts ou devenir un repère pour une communauté. Le livre, par son format synthétique, ne remplace naturellement pas la lecture des épopées ou des textes anciens. Son intérêt est plutôt de fournir un seuil d'accès. Il identifie les ensembles narratifs majeurs, leurs personnages ou motifs centraux, et leur importance dans les imaginaires concernés. Ce rôle de médiation est précieux pour distinguer une œuvre fondatrice de ses réemplois modernes. Il incite aussi à lire les mythes non comme des documents isolés, mais comme des réseaux de récits liés à la mémoire, au pouvoir, au sacré et à la création artistique. La richesse du panorama peut ainsi susciter une exploration plus approfondie des sources, tout en conservant une vue d'ensemble accessible. Quatrièmement, comparer les motifs sans confondre les cultures grâce aux doubles pages thématiques. Les doubles pages thématiques et comparatives constituent l'un des apports méthodologiques du volume. Elles permettent de rapprocher des questions qui surgissent dans de nombreuses traditions, l'origine du monde, les divinités, les héros, la mort, les créatures extraordinaires ou les médiateurs du sacré, sans affirmer qu'elles possèdent automatiquement la même signification partout. Cette nuance est décisive. Il est tentant de voir dans toute figure héroïque l'équivalent d'un héros grec, ou dans tout récit de création une variante d'un modèle unique. Or, les ressemblances de forme ne suffisent pas à établir une identité de sens. En présentant les récits dans leurs aires culturelles, puis en proposant des synthèses, le livre offre une méthode de lecture à deux niveaux, comprendre d'abord un mythe dans son contexte, puis repérer des échos ou des contrastes avec d'autres traditions. Les questions évoquées autour de la quête du Graal, de la guerre de Troie ou des chamans d'Afrique illustrent cette articulation entre récits, histoire, symboles et pratiques culturelles. L'objectif n'est pas de trancher toutes les controverses savantes, mais de montrer qu'un mythe peut être examiné sous plusieurs angles. Cette approche développe une vigilance utile face aux simplifications comparées, enrichit la compréhension quand cela rend visibles les différences aussi bien que les similitudes. Pour un usage scolaire, familial ou personnel, elle fournit des repères immédiatement exploitables. En dernier lieu, l'illustration comme outil de lecture historique. Symbolique et accessible, l'identité du Petit Larousse illustrée des légendes et des mythes repose largement sur son articulation entre textes brefs et iconographie abondante. Les illustrations et photographies ne sont pas seulement destinées à embellir la consultation, elles donnent des formes visibles à des récits transmis par des objets. Des sculptures, des peintures, des monuments, des manuscrits ou des représentations plus contemporaines. Dans un domaine où les noms, les généalogies et les épisodes peuvent rapidement se multiplier, l'image sert de point d'ancrage mémoriel. Elle aide à reconnaître des attributs divins, des créatures, des scènes épiques ou des symboles, tout en rappelant que les mythes ont continuellement inspiré les arts. Le format visuel convient particulièrement à une première approche et à une lecture non linéaire, le lecteur peut ouvrir le livre à n'importe quelle page. Associer une image à un récit, puis approfondir la notice qui l'accompagne. Cette accessibilité ne dispense pas d'esprit critique. Une image peut appartenir à une époque ultérieure au mythe qu'elle représente et refléter les conventions de son artiste ou de sa société. Mais c'est précisément l'un des intérêts d'un ouvrage illustré bien conçu, rendre perceptible la longue postérité des récits, par rapport à un dictionnaire purement textuel. Ce livre facilite donc la compréhension des liens entre mythologie, culture matérielle et histoire de l'art, sans sacrifier la clarté des informations essentielles. En conclusion, Le Petit Larousse illustré des légendes et des mythes s'adresse d'abord aux lecteurs curieux qui cherchent une introduction fiable, visuelle et largement ouverte aux traditions du monde. Il convient aux adolescents et aux adultes, aux familles ainsi qu'aux enseignants ou médiateurs qui souhaitent disposer de repères immédiatement consultables. Les amateurs déjà familiers de la Grèce, de Rome ou des récits nordiques y trouveront surtout l'occasion d'élargir leur horizon vers des mythologies moins souvent réunies dans les ouvrages généralistes. Son bénéfice intellectuel principal est de faire comprendre que les mythes ne sont ni de simples fables ni un patrimoine exclusivement occidental, ils constituent des systèmes de récits liés aux croyances, aux rites, à l'art et aux mémoires collectives. Le volume se distingue des dictionnaires mythologiques spécialisés par son équilibre entre ampleur géographique, concision et qualité iconographique. Il se distingue également d'une anthologie, car son ambition n'est pas de reproduire longuement les textes, mais d'en offrir les clés de lecture et de les replacer dans un ensemble culturel. Le classement par aire et les pages comparatives rendent possible une consultation fragmentaire tout en évitant un inventaire désordonné. Cette formule a toutefois une limite normale, les lecteurs désireux d'étudier une tradition en profondeur devront ensuite se tourner vers les sources, les traductions et les études spécialisées, comme porte d'entrée, guide de référence domestique ou support de découverte. L'ouvrage offre néanmoins une synthèse particulièrement adaptée à la circulation entre les cultures et les imaginaires. Si vous souhaitez soutenir Philip Wilkinson, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.